VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 8 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, ouverture d'un nouveau dialogue sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
Les Ghanéens devraient savoir aujourd'hui les résultats de l'élection présidentielle d'hier.
En Irak, raid aérien meurtrier sur une ville de l'Ouest aux mains du groupe État islamique. On en ignore toujours les responsables.
En Syrie, Bachar al-Assad est confiant dans sa victoire à Alep. Il continue d'ignorer les appels à la trêve.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, un nouveau dialogue s'ouvre dans les prochaines heures à Kinshasa. Sous la médiation de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, ces discussions mettront en face, d'une part, la majorité au pouvoir et l'opposition ayant pris part au premier dialogue facilité par Edem Kodjo, et de l'autre, le rassemblement que dirige Étienne Tshisekedi. L'heure est à la transmission des listes des délégués des différentes composantes aux évêques catholiques. De Kinshasa, précision de Gino Rehema, de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
Ces assises de 3 jours vont se dérouler au siège de la conférence épiscopale à Kinshasa. Les différentes parties prenantes consultées par les évêques catholiques déposent les listes de leurs délégués à ce qu'on appelle négociation directe entre l'opposition et la majorité présidentielle. Les évêques ont souhaité 15 délégués pour la partie qui a pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine et 15 autres pour ceux qui n'y ont pas pris part. Ces 15 délégués des non-signataires de l'accord de Kodjo devraient venir du rassemblement du Front pour le respect de la Constitution et de la société civile non-signataire de l'accord. Les conclusions des négociations devraient être prêtes avant le 19 décembre prochain. Ces négociations directes débuteront ce week-end et porteront sur 6 points techniques contenus dans l'accord de la Cité de l'Union africaine tel que résumé par la CENCO. Depuis Kinshasa, Gino Rehema, Top Congo pour VOA Afrique.
Au Tchad, 14 militants du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAC, ont été libérés. Ils étaient détenus depuis plus de 3 semaines et accusés de tentatives d'attroupement non autorisées le 17 novembre, le jour où la FONAC ou le FONAC avait programmé un meeting populaire au stade d'Abéna.
Au Ghana, le décompte des suffrages de la présidentielle et des législatives de mercredi se poursuit. Ces élections se sont déroulées sur fond de scandales de corruption et d'une économie en perte de vitesse. Le point avec Arzuma Compaoré.
Quelques 15 millions d'inscrits étaient appelés à élire leur prochain président pour un mandat de 4 ans, ainsi que leurs 275 députés. Au total, 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont une ex-première dame, Nana Akunadu Agyeman Rawlings, épouse de l'ancien président Jerry Rawlings. Mais c'était entre les 2 rivaux historiques que tout va se jouer. Qui du président sortant John Dramani Mahama du Congrès national démocratique, NDC, ou de Nana Akufo-Addo, le leader du NPP, nouveau parti patriotique, pourra éviter un second tour en remportant plus de 50% des voix. Les résultats sont attendus à partir de jeudi soir. Les 2 principaux candidats s'étaient affrontés lors des élections de 2012 et le président Mahama avait remporté le scrutin de peu avec 50,7% des voix contre 47,7% pour M. Akufo-Addo. Ce dernier avait contesté en vain les résultats devant la Cour constitutionnelle.
En Égypte, la police a arrêté hier pendant quelques heures une avocate et militante des droits de l'homme, Aza Soliman, après lui avoir interdit de voyager à l'étranger. Cette arrestation, dénoncée par Amnesty International, fait suite à la décision d'un tribunal égyptien en septembre de geler les avoirs de 5 autres défenseurs des droits de l'homme et de 3 organisations non gouvernementales. La raison, des soupçons d'encaissement de fonds étrangers.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Bachar al-Assad estime qu'une victoire à Alep sera une étape cruciale pour la fin de la guerre en Syrie. Il a ignoré les appels à la trêve après la reprise par ses troupes de la vieille ville et de la plupart des quartiers rebelles. Acculés dans les derniers secteurs qu'ils contrôlent dans la partie orientale d'Alep, les rebelles syriens ont appelé hier à un cessez-le-feu immédiat de 5 jours et à l'évacuation des civils. 6 capitales occidentales, dont Washington, Paris et Londres, ont également demandé une trêve, dénonçant une catastrophe humanitaire.
En Irak, un raid aérien d'origine encore incertaine a tué et blessé hier des dizaines de civils à Al-Qaïm, une ville de l'Ouest qui est aux mains du groupe État islamique. C'est ce qu'ont signalé des responsables irakiens cités par l'AFP. En fin de soirée hier, on ignorait toujours qui avait effectué ce raid sur Al-Qaïm, une ville située sur l'Euphrate et tout près de la frontière entre l'Irak et la Syrie.
Après son échec aux urnes dimanche, le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, a présenté sa démission hier, mais il est surtout apparu prêt à repartir au combat. Sa démission a cette fois été acceptée. Précision de John Lydon.
Le président italien Sergio Mattarella avait refusé lundi la démission de Matteo Renzi, 41 ans, lui demandant d'assurer d'abord l'adoption définitive du budget 2017 au Parlement. C'est chose faite depuis un vote au Sénat hier après-midi, grâce à un vote de confiance pour éviter tout débat. Vers 18h GMT, M. Renzi est donc retourné auprès du président pour présenter sa démission lors d'un entretien qui a duré environ 40 minutes. Il est la deuxième victime d'un référendum en Europe après la démission cet été de David Cameron, l'ex-premier ministre britannique, tombé après le non de ses compatriotes au maintien de leur pays dans l'Union européenne. Le président Mattarella va commencer ce jeudi, pourtant un jour férié en Italie, à consulter les forces politiques du pays pour déterminer la marche à suivre entre élections anticipées, gouvernement technique et réforme électorale. Mais Matteo Renzi n'a pas renoncé à tout avenir politique. Il semble pressé d'en découdre à nouveau. Il est temps de se remettre en chemin, a-t-il écrit hier aux Italiens.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a nommé l'ancienne co-PDG de WWE, World Wrestling Entertainment, entreprise d'organisation de matchs de catch, l'ex-WWF, comme future directrice de l'agence américaine de la petite et moyenne entreprise. Linda McMahon est l'épouse de Vince McMahon, qui nous a donné des catcheurs comme Jesse the Body Ventura, l'ancien gouverneur du Minnesota, The Undertaker et le plus célèbre d'entre eux, The Rock, l'acteur Dwayne Johnson. Auparavant, M. Trump s'était choisi pour ambassadeur à Pékin le gouverneur de l'Iowa, Terry Branstad, un vieil ami de la Chine qui connaît depuis plusieurs décennies le président chinois. Ce qui devrait rassurer la Chine, cible de multiples attaques du futur président américain, en attendant la nomination du secrétaire d'État.
Le président Barack Obama a loué hier, 7 décembre, date anniversaire de l'attaque de Pearl Harbor, la solidité de l'alliance entre les États-Unis et le Japon, adversaires les plus acharnés, devenus aujourd'hui alliés les plus proches. Jacques Aristide.
Dans un communiqué, le président Obama s'est dit impatient de se rendre au mémorial de l'USS Arizona à Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï à la fin du mois avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Pour lui, ce sera une visite historique, un hommage au pouvoir de la réconciliation. Les deux anciens pays ennemis, désormais liés par une alliance inimaginable il y a 75 ans, dit-il, continueront à travailler main dans la main pour un monde plus pacifique et plus sûr. Mardi soir, le président élu Donald Trump avait, lui, salué le courage des nombreux Américains qui se sont battus durant la Seconde Guerre mondiale pour libérer des millions de personnes de la tyrannie et de l'oppression. Préparée dans le plus grand secret, l'attaque de l'armée japonaise sur Pearl Harbor, survenue le 7 décembre 1941 et visant à anéantir la flotte américaine, avait précipité l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le séjour de M. Abe à Hawaï, les 26 et 27 décembre, interviendra quelques mois après le déplacement de Barack Obama à Hiroshima, ville symbole de la bombe atomique. Le gouvernement japonais a précisé que le but de cette visite, sans précédent, était de commémorer les victimes de la guerre, pas de s'excuser.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Nani Talani.
Les partenaires internationaux du Burkina Faso, réunis hier à Paris, se sont engagés à financer à hauteur de 12,2 milliards d'euros un plan de développement de ce pays. Cette offre dépasse l'objectif du gouvernement burkinabé, qui n'était que de 8,6 milliards. Cet argent financera le plan national de développement économique et social élaboré pour la période 2016-2020, soit la durée du mandat du président Kaboré. Il doit être financé à 64% sur des ressources propres. En Égypte, deux entreprises bravent le marché international des capitaux malgré un contexte monétaire encore fragile. D'un côté, Banque Misr, une compagnie financière à capitaux publics, sollicite des prêts pour 360 millions de dollars répartis en une tranche conventionnelle et une autre islamique avec une maturité de 5 ans. Pour sa part, Etisalat souhaite mobiliser de 278 millions de dollars avec une maturité de 7 ans. Ces deux emprunts seront une sorte de test pour toutes les autres entreprises égyptiennes qui souhaiteront mobiliser des ressources en dollars. Et pour finir, en île Maurice, le gouvernement s'attend à une hausse de 44% des investissements directs étrangers au terme de l'année 2016. Le ministre mauricien des Finances a indiqué hier que les nouvelles estimations situaient ces investissements à environ 391 millions de dollars. Les principaux secteurs ciblés sont ceux de l'immobilier, avec environ 223 millions de dollars, les services financiers et les assurances, avec environ 55 millions de dollars. La croissance économique, elle, devrait se situer entre 3,8% et 4%.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
La Ligue des champions a rendu son verdict hier soir avec les derniers matchs de la phase de groupe.
Dans le groupe E, pour un match sans enjeu, Monaco est tombé à Leverkusen, 3 buts à 0. Sans la plupart de ses cadres et avec beaucoup de jeunes joueurs, cette défaite n'aura aucune incidence pour l'ASM qui termine première. Elle était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Le Real Madrid a été tenu en échec par Dortmund, 2 buts partout, et termine deuxième du groupe F, 2 points derrière son adversaire allemand du soir. Benzema a ouvert le score à la 28e minute de jeu et inscrit le doublé à la 53e. Dortmund avait réduit le score sur un but de l'inévitable Aubameyang et c'est le remplacement Reus qui a égalisé en toute fin de match, encore par un service d'Aubameyang pour Dortmund. Dans le groupe G, la valise du soir, c'est celle du FC Porto qui a surclassé Leicester 5-0, mais les Anglais étaient déjà qualifiés et assurés de terminer premier. Vainqueur à Bruges 2-0, le FC Copenhague est reversé en Ligue Europa. La Juventus de Turin, enfin dans le groupe H, n'a pas tremblé contre le Dynamo Zagreb, victoire 2-0. Dans un parc OL bouillant, Lyon devait s'imposer par 2 buts d'écart contre Séville pour se qualifier. Mais finalement, c'est un match nul 0-0 qui profite aux Espagnols.
L'Angola à l'honneur en handball.
Eh oui, puisque l'Angola a remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016. Les Angolaises ont battu en finale la Tunisie sur le score de 36-17. On rappelle que les Tunisiennes étaient tenantes du titre. C'est le 12e trophée continental remporté hier par l'Angola au pavillon des sports de Quilamba. On rappelle que le Cameroun a terminé 3e sur le podium après la disqualification du Sénégal. Allez, enfin Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Los Angeles Lakers 95, Houston 134, Détroit 77, Charlotte 87, Boston 117, Orlando 87, Denver 111, Brooklyn Nets 116, Miami 95, Atlanta 103, Portland 107, Milwaukee 115, Cleveland 126, New York Knicks 94, Sacramento 120, Dallas 89 et Indiana 109, Phoenix 94.
Washington Forum ce jeudi, on revient sur le résultat inattendu des élections en Gambie. Après 22 ans de pouvoir, le président Yahya Jammeh, tant redouté de ses compatriotes, a perdu la présidentielle face à Adama Barrow et immédiatement a reconnu sa défaite. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de ce pays enclavé dans le Sénégal. Quel avenir pour le président sortant? Qui est le nouvel homme fort de Banjul? La Gambie peut-elle servir d'exemple d'alternance pour d'autres pays africains? Laissez nouveau comme sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia, en votre compagnie, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Sikasso, où se déroule le procès Amadou Aya Sanogo et co-accusé, la défense a soulevé des exceptions pour demander le renvoi de l'audience. Les avocats de la défense ont, entre autres, contesté la compétence de la cour d'assises, arguant qu'une cour civile ne peut pas juger cette affaire puisque les accusés, les victimes et les témoins sont essentiellement militaires. De Sikasso, notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
À Sikasso, les gens ne se bousculent plus devant la salle d'audience. Plusieurs curieux sont retournés dans leurs villes respectives. C'est en ce moment aussi que les choses sérieuses commencent dans la salle d'audience. Les avocats de la défense ont présenté une batterie d'exceptions afin d'obtenir le renvoi du procès. Maître Aruna Touré, avocat de la défense.
C'est le fait que le dossier n'est pas en état d'être jugé. Les citations sont régulières. Les expertises ont été faites contrairement à la loi. Les témoins n'ont pas comparu. Vous voyez, c'est un actes n'ont pas été régulièrement notifiés à nos clients. Donc toutes ces violations doivent avoir pour conséquence immédiate le renvoi de cette affaire parce que le dossier n'est pas en état d'être jugé. C'est une question de respect des droits de la défense. Ce n'est pas une question que ça plaise à quelqu'un ou non. Non, c'est des demandes qui sont formulées sur la base des dispositions légales de notre code de procédure.
Mieux, les avocats de la défense ont contesté la compétence personnelle et matérielle de la cour d'assises. Selon eux, elle ne peut pas juger cette affaire militaire. Des affirmations contredites par la partie civile. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes.
En réalité, aucune de ces exceptions ne tenait la route. Nous, on a donné la réponse appropriée parce que tout ce qu'ils avaient avancé avait été déjà purgé par l'arrêt des rapports. Les exceptions qui ont été soulevées, communication de documents, communication de pièces, on les a mis au défi de nous dire quelle est la loi qui dit si on ne fait pas ça, la sanction c'est quoi. Mais ils ont mélangé les pédales en disant que je n'ai pas parlé de nullité. J'ai dit la loi pénale est d'interprétation très stricte. Ce qui n'est pas dit, on ne doit pas l'inventer.
La défense a aussi estimé que ses clients sont en détention illégale. Maître Amidou Diabaté de la partie civile réplique à cette exception.
Tous les accusés ici présents sont ici au titre d'une ordonnance de prise de corps qui reprend l'ancienne formule de l'habeas corpus judiciaire répressif pour que l'accusé soit présenté de corps devant ceux qui doivent le juger. C'est à ça que répond l'idée d'ordonnance de prise de corps. Et c'est cette ordonnance de prise de corps qui est l'ordre donné à la maison d'arrêt de les détenir. Donc ce n'est plus au nom du vieux mandat de dépôt délivré par le juge que les personnes sont détenues. Donc selon nous, on ne peut pas invoquer cette détention illégale.
À la question de savoir si la cour ne prend pas en compte les exceptions de la défense, Maître Aruna Touré répond.
On avisera demain, on vous dira comment on va faire. Elle ne peut pas ne pas tenir compte de ces exceptions. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Ce n'est même pas pensable. Nous, on ne peut pas l'envisager. C'est pourquoi on avisera demain au cas où la cour ne...
C'est la salle, quand même.
Je ne dis pas qu'on ne quittera pas la salle, mais on prendra toutes nos responsabilités, quoi qu'il arrive.
À la reprise de l'audience, ce jeudi 8 décembre 2016, la cour donnera son verdict sur les exceptions des avocats de la défense. Cette décision déterminera la suite du procès. Sikasso, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'ancien président gambien Yahya Jammeh, qui a accepté sa défaite à l'issue de l'élection présidentielle après 22 ans au pouvoir, est accusé de graves violations des droits de l'homme par des ONG locales et étrangères. Faudrait-il le traduire en justice ? Nanit Talani a recueilli l'avis d'Alioune Tine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest.
Ce ne serait que justice pour des victimes qui ont été arrêtées arbitrairement, des victimes qui ont été torturées, des victimes qui ont fait l'objet de disparitions de personnes ou qui ont été tout simplement tuées. Au moins que les gens comprennent pourquoi tout cela est arrivé, parce qu'il y a eu des violations graves et continues des droits de l'homme. Et il y a eu quand même des choses dont il faut absolument faire le point pour ne point recommencer ce qui s'est passé, et puis aller avec une candie nouvelle où la priorité sera le respect des droits humains et de l'état de droit. Il me semble que pour que cette Gambie soit crédible, il faut effectivement faire l'inventaire des violations des droits humains et en tirer vraiment toutes les conséquences de droit.
Ne pensez-vous pas que les poursuites contre Yahya Jammeh pourraient entamer la stabilité de la Gambie?
Je pense aujourd'hui qu'il est de la responsabilité de l'Union africaine, l'ONU et de la CEDEAO de faire en sorte que la transition qui s'entame soit bien sécurisée, de faire tout pour que la Gambie ne soit pas déstabilisée. C'est le travail qu'il faut faire, mais je pense que Yahya Jammeh lui-même, pour que demain les gens soient prêts à pardonner, il faut effectivement qu'il rende compte. Voilà, la reddition des comptes, quand même, c'est quelque chose de très important pour la situation de la Gambie, pour ce que les gens ont souffert pendant 22 ans, pour ne plus recommencer. Et pour dire effectivement que c'est une nouvelle voie qui a été prise pour la Gambie.
Pourquoi la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, qui est gambienne, n'a pas encore fait d'enquête préliminaire sur son pays?
Écoutez, de mon point de vue, je ne pense pas que Yahya Jammeh ait commis un crime de guerre, parce qu'il n'y a pas eu la guerre, ni un génocide, je ne pense pas non plus. Maintenant, est-ce qu'il a commis des crimes contre l'humanité? Ça, effectivement, c'est peut-être une enquête, et c'est au terme peut-être de ce que j'appelle l'inventaire des droits humains que ça pourrait être établi. Mais je pense que, de mon point de vue, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas assurer péremptoirement que Jammeh ait commis des crimes contre l'humanité.
Aliou Ntine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Le médiateur dans le conflit burundais est à Bujumbura pour des consultations. Pendant 3 jours, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa va rencontrer des acteurs politiques et de la société civile et il s'entretient aujourd'hui avec le président Pierre Nkurunziza. 1 an après le lancement de ces pourparlers, quel bilan? Eh bien, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles la journaliste Colette Brackman.
La situation est assez paradoxale parce que sur le terrain, elle n'a fait qu'empirer. Les sanctions internationales se sont durcies, les pressions aussi, le niveau de violence a monté. Cependant, contrairement à tout ce qu'on pouvait imaginer voici un an, le régime est toujours en place, ce qui montre qu'il est relativement imperméable à toutes les sanctions, à toutes les mesures qui pourtant sont très pénibles et très, très douloureuses pour le régime et aussi pour la population.
Est-ce qu'on peut dire que la médiation manque de capacité pour pouvoir mettre les deux parties ensemble et aboutir à un accord pour la stabilisation du pays?
Oui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que plus personne aujourd'hui ne parle même de cette médiation. Elle n'a rien donné et je crois que ce chapitre-là, il est clos parce qu'il n'a rien donné. Le régime s'est obstiné, l'opposition n'a pas fait la percée qu'elle aurait souhaité et on ne parle même plus de cette médiation. Donc c'est un échec.
Le médiateur Mkapa est à Bujumbura pour rencontrer le gouvernement et d'autres acteurs locaux. Est-ce que vous pensez que cela peut relancer quelque chose?
On peut l'espérer en tout cas, parce que effectivement pour le moment le régime est acculé. Je vous dis, il est surprenant qu'ils soient encore là et qu'il ait résisté encore durant tout ce temps, mais la situation devient de plus en plus difficile et il est possible qu'ils cherchent une issue. Les esprits s'échauffent, il y a des rumeurs de plus en plus inquiétantes, comme quand on marque les maisons pour dire qu'ils sont les Tutsis qui habitent à certains endroits. Il y a des rumeurs de circulation d'armes, de Imbonerakure, donc de miliciens Hutus qui prennent position. Donc les rumeurs sont de plus en plus alarmantes et donc je crois que tout le monde essaie peut-être de sortir de l'impasse et si le médiateur peut réussir, on ne peut que nous souhaiter bonne chance.
Quels sont les leviers efficaces finalement pour aboutir à quelque chose?
On a quand même essayé beaucoup, on a essayé les pressions politiques, les sanctions sur les avoirs des dirigeants, les restrictions de visa et de voyage et aussi les sanctions économiques, les embargos, même le paiement des militaires qui font partie des forces internationales. Tout ça fait vraiment souffrir le pays, souffrir la population, souffrir aussi un peu les dirigeants, mais ça ne donne rien. Et donc maintenant, je crois qu'il y a des pressions plus fortes qui doivent se manifester dans la région, mais pour le moment, les pays voisins ne semblent pas vraiment disposés à les exercer.
C'était de Bruxelles, la journaliste Colette Brackman.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le gouvernement du Burkina Faso, qui réunit depuis mercredi à Paris des bailleurs de fonds, a dépassé ses objectifs dès le premier jour. Le Burkina veut mener une insurrection contre la pauvreté grâce à un plan quinquennal de développement. Bagasikoura a joint à Paris Seglaro Abel Sommé, secrétaire général du ministère de l'économie du Burkina.
Le plan national de développement économique et social, son bouclage financier, nous donnait sur un volume total de plus de 15 000 milliards de francs CFA. Les annonces qui ont été faites par les partenaires techniques et financiers nous ont ramené à plus de 8 000 milliards de francs CFA, soit beaucoup plus que les 5 500 milliards de francs CFA que nous attendions comme gap. Donc au niveau du secteur public, nous avons bouclé, plus que bouclé, le gap de financement du PNDS à 150%.
À 150%, à votre avis, qu'est-ce qui a convaincu vos partenaires?
Je pense la qualité du plan. Au-delà de ce qu'on dit, quand vous prenez ce plan, c'est un plan qualitatif, c'est un contenu qui est sérieux, qui est rigoureux. Les résultats sont clairs, les attentes sont clairement définies. C'est un plan orienté résultat. Il y a aussi le renouveau qui est arrivé au Burkina Faso, qui a donné un bon exemple d'un peuple mobilisé qui sait dire où il veut aller et qui sait dire non à ce qu'il ne veut pas. À partir de ce moment, un président qui a été élu et plébiscité, il montre un leadership, il donne de la confiance. À mon avis, le choc de confiance a eu lieu. Alors, demain, c'est particulier.
Qu'est-ce que vous allez faire ce jeudi? Est-ce que vous allez continuer à récolter des fonds?
C'est le secteur privé qui est en action. Il s'agit donc pour le secteur de se positionner sur des projets très précis en PPP, en partenariat public-privé, et de les réaliser effectivement. On mobilise des ressources. L'autre paire de mains, c'est l'exécution, la mise en œuvre. On a besoin d'entreprises performantes, on a besoin de réaliser dans les délais impartis.
Est-ce que là aussi, vous avez un objectif financier défini?
À ce niveau, il n'y a pas d'objectif défini, parce qu'en matière de partenariat public-privé, c'est ouvert. L'investisseur se détermine de façon imprévisible ou d'une manière qu'on ne peut pas totalement maîtriser. Donc là, il n'y a pas d'objectif. Nous avons des projets qui sont présentés, une liste de 83 projets qui seront présentés au niveau des réformes qui les accompagnent. Et on espère maintenant qu'il y ait des manifestations d'intérêt. Donc on fera le point en fin de journée sur les manifestations d'intérêt qui auront été exprimées.
Seglaro Abel Sommé, secrétaire général du ministère de l'économie du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Ici aux États-Unis, le Parti démocrate s'interroge sur son avenir après la débâcle subie en novembre, Lionel Gahima.
Dans le sillage de la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle face au républicain Donald Trump, les démocrates font leur examen des consciences, explique l'analyste John Fortier. Où le parti doit-il aller? Doit-il se tourner vers ses personnalités plus progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts ou le sénateur Bernie Sanders du Vermont? Qui pousserait le parti plus à gauche ou dans la direction choisie par Hillary Clinton, c'est-à-dire plus au centre? Le sénateur Sanders semble impatient d'assumer un rôle clé dans ce processus, exhortant les démocrates à réexaminer leurs efforts en direction des électeurs de couches laborieuses. Ils sont des millions de personnes aujourd'hui, des gens de la classe ouvrière, de la classe moyenne, des gens de bas revenus vivant dans le désespoir. Le besoin de changement a été bien illustré par la tentative infructueuse du député Tim Ryan de l'Ohio de déboulonner Madame Nancy Pelosi de son poste de chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants. Je crois dans mon cœur, dit-il, que si nous comptons gagner en tant que démocrates, nous devons avoir un message économique ayant un impact dans tous les coins de ce pays. L'avenir du Parti démocrate est aussi au centre des préoccupations du président sortant Barack Obama. Il doit donc y avoir des valeurs clés, ne devant pas faire l'objet du débat, et qui doivent être notre toile polaire. Mais nous devons prendre le temps de réfléchir sur la manière de nous organiser. De nombreux blancs de la classe ouvrière ont voté pour Donald Trump, souligne l'analyste conservateur Fred Barnes. Trump a accompli ce qu'à mon avis, les républicains n'allaient peut-être jamais réussir, gagner la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan et le Wisconsin, la ceinture industrielle qui compte tant de membres de la classe ouvrière, dont un bon grand nombre au chômage. Les démocrates du Congrès devront donc décider, après la cérémonie d'investiture présidentielle du 20 janvier, sur quel front ils s'opposeront à Donald Trump et sur quels autres ils trouveront un terrain d'entente.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.